Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série concernant vieillir n'a pas à être triste. C'est l'étude numéro 5. Essayons de répondre à l'angoisse et à la dépression. Tous les gens âgés ne rayonnent pas d'amour. Beaucoup sont en proie à l'anxiété et à la dépression, sentiments qui leur étaient jusque-là inconnus. Les psychologues parlent de dépression de l'âge. Plutôt que de la juger, il faut apporter à cette situation nouvelle et difficile les réponses adéquates. Les angoisses et la dépression ont un sens et il convient de saisir celui-ci par le dialogue avec la personne concernée. La dépression de l'âge est souvent liée à la retraite, moment où l'individu cesse de se définir par rapport à son travail et à son autorité. Les hommes et les femmes qui sont cadres avec des responsabilités dans les commerces sont sujets à ce mal car ils ne peuvent plus s'identifier aux tâches qui leur incombaient jusque-là. Aujourd'hui, dans l'économie actuelle, on est considéré trop vieux déjà à partir de 45 ans. Oh oui, il arrive qu'une dépression soit parfois nécessaire, laquelle contraint l'individu à se détacher des choses passées. Une femme qui avait eu une vie très active et bien remplie a compris que son état dépressif l'invita à lâcher prise. Elle ne devait plus exercer une quelconque pression sur elle-même, ni produire de résultats ou encore rivaliser avec autrui. De se laisser faire allait donc naître dans la vieillesse une existence riche et fructueuse. Dans le parcours de cette femme, la dépression a marqué un tournant décisif entre une vie active intense et une nouvelle qualité d'existence. La dépression guette également souvent celui qui, au terme d'une longue vie commune, voit disparaître son conjoint. J'en sais quelque chose. Le seul qui le portait jusque-là se dérobe carrément sous ses pas. Son identité se voit ébranlée au point qu'il ne se comprend plus lui-même. Toutes ses pensées, jusqu'alors, se référaient à l'être aimé. Désormais seul, il ne sait plus qui il est au plus profond de lui. Privé de la force qu'il puisait dans la présence de l'autre, il se sent maintenant faible, malheureux et abattu. Afin d'asseoir son existence sur de nouvelles bases et de trouver en Dieu un nouveau soutien, la personne âgée, touchée par cette épreuve, doit la surmonter toute seule. Ses enfants ne peuvent la libérer de la solitude et de l'état dépressif qui l'accable. Mais plutôt que de lui en tenir rigueur, ils doivent la comprendre et l'accompagner, l'écouter, parler de sa mélancolie sans intervenir ni prodiguer de conseils, uniquement la remettre totalement à Dieu dans la prière. La personne concernée n'aspire souvent qu'à être écoutée et prise au sérieux, étape nécessaire à la réorientation d'une existence privée de ses repères. Il convient toutefois de distinguer les états dépressifs de la dépression proprement dite, maladie pouvant être due à des causes organiques comme à des circonstances extérieures. Le psychothérapeute Christian Müller explique ainsi la recrudescence de la maladie parmi les personnes âgées. Voici ce qu'il dit. La retraite, le changement de domicile, les pertes subies arrachent le vieil homme à son environnement familier et ses forces psychiques ne suffisent pas à compenser ses privations. Et vous comprendrez que j'ajoute dans le même registre les femmes. Quand la Bible parle de l'homme, elle parle automatiquement de la femme y comprise. Donc la psychologie invoque la vulnérabilité de l'être humain, capable en temps normal de supporter des situations pesantes. Ce dernier, devenu vieux, n'est plus assez fort mentalement, que je veux dire, pour en venir à bout. Quelles que soient les causes de la dépression dont elle souffre, la personne âgée touchée doit avant tout admettre sa maladie et en parler ouvertement à son médecin. Beaucoup de personnes âgées, toutefois, elles taisent, elles ne parlent jamais de leur dépression. Ils en ont honte. Et elles, en restant captives, oui, elles en restent captives parce qu'elles ont honte, je viens de le dire. La maladie se manifeste souvent par une asthénie et une morosité durable, par un ressentiment d'idées noires et par la répétition de ces quatre phrases symptomatiques. « Je ne veux plus rien et je ne peux plus rien. Je ne suis plus capable de rien. Plus personne ne m'aime. » Et tout cela est peut-être de ma faute. Bien souvent, la dépression de l'âge n'est pas prise au sérieux. On l'assimile à une tristesse due à la solitude ou à la perte d'un proche. Les chiffres pourtant sont très alarmants. Par exemple, en Allemagne, au moins 10 personnes âgées se suicident tous les jours. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Tous les jours. La plupart sont désespérés angoissées et dépressives. Les vieillards se suicident davantage que les quadragénaires. Une personne âgée sur 7 dans les maisons de retraite médicales. Un résident sur 3 âgé de plus de 65 ans souffre d'une dépression nécessitant des soins, laquelle n'est souvent pas traitée parce que ni l'entourage ni les médecins ne la considèrent comme telle. Et c'est ainsi que disparaît de part et d'autre la volonté de solliciter et même d'accepter une aide médicale. La personne touchée finit par se résigner à son sort, incomprise évidemment, seule et totalement désemparée. Tandis qu'elle redoute d'importuner son entourage, alors sa maladie s'aggrave et le danger croît qu'elle va mettre fin à ses jours. Certains qui n'ont jamais connu la dépression par le passé vivent particulièrement mal cet état. Eux qui avaient jusque-là maîtrisé leur existence la voient maintenant s'assombrir. Se sentir impuissant face à la dépression, cela implique de renoncer à l'image que l'on avait jusqu'alors de soi-même et aux yeux d'autrui. L'esprit enténébré, la personne atteinte, elle éprouve soudain des difficultés à accomplir des choses toutes simples. Privée de son élan, sa vie lui-même dénuée de sens. Évidemment, vous comprenez, quand on n'a plus d'élan, plus de force, eh bien, tout semble dénué de sens. Les dépressions de l'âge nous invitent à nous dépouiller de tout ce dont notre vie était faite. Quelque fiers que nous avons été dans notre santé, de nos forces, grâce à laquelle nous avons jusqu'à un âge avancé tout pris en main, eh bien la dépression nous impose de renoncer à ce qui nous importait tellement. En emportant avec elle tout ce qui nous définissait et dont rien ne peut garantir la pérennité, notre foi, notre optimisme, notre force, notre liberté, notre créativité, la dépression nous lance un défi spirituel. Elle nous oblige donc à nous défaire de l'image que nous avions de nous-mêmes, à redéfinir notre moi et nos priorités en nous posant ces questions. Quelle est l'essence de notre vie, de ma vie? Sur quoi pouvons-nous réellement compter? La dépression laisse souvent affleurer le regret refoulé des choses enfouies. Le deuil auquel elle nous contraint alors nous permet d'accéder aux strates les plus profondes de notre âme où gisent de nouvelles possibilités d'être et d'exister. Il n'y a que la prière et de s'abandonner dans les bras du Seigneur, et cela en toute humilité, pour combattre la dépression, se laisser guider personnellement, oui, je parle là personnellement, j'ai constaté qu'il ne faut pas oublier de se nourrir, si possible, convenablement, et le Seigneur ne nous défend jamais de compenser certaines lacunes par une vitamine adéquate. Et oui, donc, certaines dépressions chez les personnes âgées nécessitent assurément le traitement d'un médecin ou même d'un psychothérapeute. Et devant le risque de suicide, la prise d'antidépresseurs s'avère souvent indispensable, hélas. Lorsque s'accumulent les facteurs de risque, solitude, vieillesse, douleur chronique et peur de la dépendance, un traitement médical est donc indiqué. La psychothérapie peut également aider les personnes âgées atteintes de dépression. Les entretiens leur permettent de mieux comprendre et de mieux accepter leur vie. Comme l'atteste la recherche neurobiologique, ils agissent en outre sur le métabolisme cérébral, produisant un effet comparable à celui des médicaments. La dépression, qui requiert un traitement médical, lance elle aussi un défi spirituel à la personne touchée. D'une part, celle-ci doit avoir l'humilité d'admettre son besoin de médicaments. D'autre part, la dépression l'invite à rentrer plus profondément en soi, jusque dans l'espace intérieur du silence. Cet espace où gît Dieu en l'homme est inaccessible à la dépression. Avoir une dépression ne signifie pas être celle-ci. Au tréfonds de son âme, l'être humain demeure sain et sauf de toute façon. Outre l'angoisse et la dépression qui touchent un nombre grandissant de personnes âgées, la démence sénile et la maladie de Alzheimer sont de plus en plus répandues. Celui qui est atteint de cette dernière souffre, outre de désorientation, de pensées indigentes et qui se répètent à satiété, de difficultés à se concentrer, à comprendre et à juger, d'une forte instabilité en plus, une instabilité émotionnelle, et d'un manque de maîtrise de soi. Si nul n'est à l'abri de la démence ni de la maladie de Alzheimer, il est possible de prévenir ces maux en maintenant son esprit en éveil, si possible. C'est ce que je fais actuellement à 90 ans. La psychologie a démontré le lien existant, a fortiori, chez les personnes âgées, entre les capacités intellectuelles et la perception sensorielles. D'où l'importance, à partir d'un certain âge, de faire vivre tous ses sens, de regarder, d'écouter, de sentir, de goûter et même de toucher. La thérapie olfactive obtient aujourd'hui des résultats encourageants auprès de personnes âgées désorientées. La perception de certaines senteurs ravive chez elles le souvenir d'expériences passées, leur rappelant les moments heureux de leur vie. Si ce type de thérapie ne parvient généralement pas à guérir la maladie, il contribue tout de même au mieux-être des personnes qui en sont atteintes. Autrefois, convaincus qu'ils étaient ou qu'il était plutôt absurde de soumettre les vieillards à une psychothérapie, beaucoup de psychologues ont revu totalement leur position. Les gens âgés, en effet, sont souvent plus aptes que les autres à donner un sens nouveau à leur vie et à assumer les choses passées. La vieillesse est davantage propice que la jeunesse à la réflexion personnelle. Le vieil homme, j'ajoute personnellement la dame âgée, devient pensif. Il arrive même que sa tendance accrue à l'introspection l'inscrite à considérer les problèmes d'un point de vue supérieur. Donc, les gens âgés ne devraient pas hésiter à recourir à une aide médicale ou thérapeutique lorsqu'ils souffrent de dépression, qu'apparaissent par exemple les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer, ou lorsque la peur les hante d'être devenus fous parce que leur vie a si radicalement changé qu'ils ne s'y retrouvent plus du tout. La vieillesse génère, outre les peurs que nous connaissons tous, des angoisses spécifiques. Les gérontologues distinguent 7 types d'anxiété qui sont liés à l'âge. La peur de sombrer dans la folie, la peur généralisée de vivre, la peur de manquer du minimum vital, la peur de la dépendance, de maladie et de changements non contrôlés. Ces angoisses caractéristiques de la vieillesse revêtent des aspects différents selon les individus, et chacun d'entre eux y réagit à sa façon. Les uns, au moindre oubli, se voient atteints de la maladie d'Alzheimer. D'autres, angoissés par leur existence matérielle, craignent de ne pouvoir financer leurs soins médicaux ou une place dans une maison de retraite. Et beaucoup s'affolent devant chaque nouvelle tâche que la vieillesse impose. La nouveauté suscite l'angoisse, forcément. Les gens âgés ont besoin d'un univers familier où ils se sentent à l'abri et en sécurité. Il est donc important qu'ils réfléchissent à ces peurs spécifiques de leur âge et qu'ils s'en entretiennent avec d'autres. Je voudrais ici évoquer les principales peurs des personnes âgées. Nombre d'entre elles, nombreux sont celles qui redoutent la perte du contrôle de soi, la dépendance et la solitude. Ayant atteint un certain âge, les personnes vivant seules appréhendent particulièrement l'invalidité et l'abandon. L'éventualité de finir leur jour dans une maison de retraite ne les enchante pas du tout, car elles craignent de ne plus être à même de maîtriser leur vie. Tout va bien tant qu'elles sont capables de se rendre à des invitations ou de participer à des excursions et qu'elles peuvent assumer leurs repas et les tâches ménagères. Se sentant à l'aise dans leur environnement familier, elles redoutent de dépendre un jour d'une aide extérieure. La perspective de devoir solliciter autrui les effraie terriblement. D'autres sont gênés à l'idée d'importuner des proches ou des amis. S'ils souhaitent que leurs enfants prennent soin d'eux, les parents âgés appréhendent dans le même temps d'être une charge pour eux. D'autres encore ont peur de laisser échapper leurs enfants et de ne plus pouvoir leur apporter leur soutien. La difficulté qu'éprouvent beaucoup de personnes âgées de lâcher prise procède donc toujours de l'anxiété, par peur de se voir réduite à néant. Certains se cramponnent à leurs fonctions et à leur influence. La vieillesse laisse émerger des angoisses originelles qui, depuis la nuit des temps, tourmentent l'humanité, ainsi la peur de manquer, de mourir de faim, d'être dépossédé de tout. Le psychanalyste Carl Gustav Jung raconte tout de même avoir été lui-même obsédé par le décès de sa riche épouse, par la peur surtout de manquer d'argent. D'autres redoutent les maladies douloureuses ou la démence, horrifiés à l'idée d'errer comme une âme en peine et sans aucun repère, hantés par la peur de perdre l'autre ou d'être abandonnés par lui, par elle. Ils s'agrippent à la vie, à leurs relations et à leurs enfants. À quoi s'ajoute leur peur de survivre, captifs de la solitude, au trépas de l'être aimé, et j'en sais quelque chose. Beaucoup, enfin, sont taraudés par la peur de mourir, laquelle revêt de multiples aspects. Qui craint de ne plus se maîtriser et de ternir l'image d'être discipliné qu'avait de lui son entourage, qui frémit maintenant d'angoisse en songeant à l'aspect inconnu et menaçant de la mort, qui redoute enfin de ne pouvoir, une fois confronté à sa propre vérité, paraître devant Dieu. une femme m'a parlé de son père qui, à l'article de la mort, tardait à rendre l'âme parce qu'il craignait de se présenter devant Dieu. L'ampleur de ses péchés, affirmait-il, lui interdisait de paraître devant le Tout-Puissant. Si ses peurs aujourd'hui ne sont guère répondues, une certaine angoisse de la mort, parfois mêlée à celle du jugement, se tapit quand même au fond de chaque être humain. Quelles que soient les peurs qui m'habitent, je dois les affronter dans la prière. Qu'ont-elles ces peurs à m'enseigner? Eh bien, nul ne peut me garantir que je ne serai pas atteint d'une grave maladie ou de démence, ni que mon conjoint ne disparaîtra avant moi. Donc ma peur est donc compréhensible si je dois l'admettre. Dans le même temps, elle me renvoie aux véritables fondations de mon être, à ce qui le constitue en profondeur. En terminant cette très courte étude, je dirais que la peur d'être abandonné me rappelle que je ne dois pas édifier mon existence sur les hommes, mais sur Dieu, car Dieu ne m'abandonnera pas. Il restera auprès de moi et son ange me conduira vers l'au-delà. Pas un instant, pas même au moment de mourir, je ne serai totalement seul. La peur de sa propre caducité et de la démence invite donc l'homme en se remettre totalement à Dieu, confiant dans la volonté qui l'anime de le soutenir dans toutes les phases de son existence. L'angoisse de la damnation m'invite donc à me tapir dans la main charitable de Dieu. Je peux faire taire ma peur en prononçant les mots que Jésus a dit au bon larron suspendu à la croix. Rappelez-vous, Saint Luc, chapitre 23, verset 43. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cela, bien entendu, pour autant que j'ai reconnu un jour que je suis un misérable pécheur et que, de ce fait, je suis perdu pour l'éternité, mais au moment où j'ai accepté la main tendue de Jésus-Christ, qui est mort à la croix et qui a versé son sang précieux pour me racheter, à ce moment-là, eh bien, je suis sauvé. Sauvé, et je peux répéter ce que Jésus a dit et le comprendre que en vérité aujourd'hui tu seras avec moi, avec Jésus dans le paradis. Amen. Chers amis, nous allons terminer cette très courte étude par la prière et je voudrais vous citer la strophe d'un très ancien cantique. Ensuite de la prière, j'essayerai de vous mettre un ou deux chants d'un très lointain passé. environ 1965, et c'est peut-être Jim Reeves de ce temps-là qui va chanter quelques chants, mais bien sûr que la qualité n'est plus la même. Il y a tellement longtemps, once upon a time, comme on dit, n'est-ce pas? Et l'essentiel, c'est la profondeur des paroles, pour autant qu'on puisse encore les comprendre. Voici les strophes ou la strophe de ce vieux cantique. Saint des saints, tout mon cœur veut s'élever à toi. Tu me dis de chercher le regard de ta face. Fais-moi sentir ta puissante efficace. Esprit de Dieu, viens soutenir ma foi. Devant toi, je rougis et demeure confus, mais Seigneur, ta pitié relève ma misère. N'as-tu pas mis entre elle et ta colère l'amour, la croix et le sang de Jésus? Prions. Ô Dieu, notre Père, daigne nous éclairer par ton Saint-Esprit, et que cet Esprit qui seul peut comprendre les choses profondes de Dieu applique lui-même à nos âmes la portion de ta sainte parole que nous venons d'entendre. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as appris, ce que est cette nouvelle naissance sans laquelle nous ne saurions t'appartenir. Au fait que pas un de ceux que nous aimons ne ferme son cœur à cette instruction salutaire et ne repousse la grâce que tu lui offres. Fais-nous bien comprendre ce que est ce changement complet, cette transformation de notre être tout entier à l'image de notre Sauveur, et apprends-nous à mesurer à la profondeur même de ce changement la puissance de ta grâce et la richesse de ton amour. Préserve-nous de regarder à nous-mêmes. Ne permets pas que nous nous laissions détourner de nous approcher de toi par la pensée de notre indignité, mais que nous regardions à toi d'heure en heure pour avoir la force de résister au mal. Élève nos âmes à toi afin qu'elles te bénissent dès le matin. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits et nous nous plaçons sous ta garde pour cette journée qui commence avec nos soucis, nos peines, nos difficultés, pour que tu nous apprennes à nous en décharger sur toi et avec nos joies pour qu'elles soient sanctifiées. Oui, bénis tous ceux que nous aimons. Fortifie le cœur et les mains de tous ceux qui travaillent pour toi, et que ta paix demeure avec nous pour l'amour de notre Sauveur, dans le nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, je vais donc essayer de vous mettre quelques chants d'un lointain passé, comme je l'ai dit, et espérons que ça fonctionne. C'est ça, surtout.
Some men will trade the one home and friends that the world may know. Some men will risk their reputation for just the taste of fame, but just to know that all is clear between my soul and God's dear son, and hear him say, "Well done, oh, that's worth everything." Just to know the future is forever, just to feel the of a child, and just to know the passing sun and sunshine here today, and he is Lord of all, and that's worth know when tiny feet walk in the path that I have left behind, that they will make their way to Jesus, contentment there to find, to face the world and know my heart that I have wronged no man, to fit my master's plan. Oh, that's worth everything. Just to know the future is forever, come and lead us.
are bombarded by beckoning voices, and our world is polluted with sound. Lord, let us hear you. In a land dissected and muddled by mazes of never-ending roads and highways, Lord, help us find your way. In a world of easy promises, empty guarantees, and quit-claim insurance policies, give us the security of your hand, Lord Jesus. At a time when we are confused by conflicting authorities that would tell us how to manage our marriages, our finances, and our children, oh Lord Jesus, show us your way. As we walk the tightrope of parenthood in these explosive days, training our little ones to live in a world for which there are no precedents, Lord, we just need you. In all things, gentle shepherd, help us find the way.
There's no
bombarded by beckoning voices, and our world is polluted with sound. Lord, let us hear you. In a land dissected and muddled by mazes of never-ending roads and highways, Lord, help us find your way. In a world of easy promises, empty guarantees, and quit-claim insurance policies, give us the security of your hand, Lord Jesus. At a time when we are confused by conflicting authorities that would tell us how to manage our marriages, our finances, and our children, oh Lord Jesus, show us your way. As we walk the tightrope of parenthood in these explosive days, training our little ones to live in a world for which there are no precedents, Lord, we just need you. In all things, gentle shepherd, help us find the way.
There's no
Yeah. That smile. Galilee, so the holy book does say. And a great multitude was gathered there without a thing to eat for days. Up stepped a little boy with a basket. Please take this, Lord, he said. And with just 5 loaves and 2 little fishes, 5,000 had fish and bread. Who was it, everybody? Who was it, everybody? Who was it, everybody? It was Jesus Christ, our Lord. Now pay close attention, little children. It's somebody you ought to know. Yeah, it's all about a man that walked on earth nearly 2,000 years ago. Well, he healed the sick and afflicted, and he raised them from the dead. Then they nailed him on an old rugged cross and put thorns on his head. Who was it, everybody? Who was it, everybody? Who was it, everybody? It was Jesus Christ, our Lord. Well, they took him down and they buried him. And after the 3rd day, when they came to his tomb, well, they knew it was gone, 'cause the stone was rolled away. He's not here, for he is risen, the angel of the Lord then said. And when they saw him walking with his nail-scarred hands, they knew he came back from the dead. Who was it, everybody? Who was it, everybody? Who was it, everybody? It was Jesus Christ, our Lord.